Donc elle va approcher la psychanalyse qui est naissante, hein, puisque elle a été inventée par Freud, hein, donc au début du siècle. Et elle sera une des premières, une des pionnières, à la fois pour soigner et pour soigner les autres, on va dire. Donc en 1910, elle rencontre un médecin, sociologue, Gustave Le Bon, qui est un... Je ne pense pas que ce soit là une idylle, il est plutôt un rôle auprès d'elle, hein, il joue un rôle paternel, plus âgé. Et donc elle a déjà écrit beaucoup, on peut évoquer déjà ses écrits, outre, entre guillemets, le recueil bêtises depuis son enfance. Elle a écrit Les Murs, entre guillemets, Monologue devant la vie et la mort. Elle a écrit, elle écrira hein, par la suite, Guerres militaires et guerres sociales, un livre de contes aussi pour ses enfants. Et puis qui s'intitule Le printemps dans mon jardin. Et lorsque j'évoquais tout à l'heure des articles dont certains feront scandale, et notamment un article intitulé « Considérations sur les causes de la frigidité chez la femme ». Alors sous un pseudonyme, Narjani, N-A-R-J-A-N-I, voilà. Elle en écrira un autre article, plus exactement, elle sera la traductrice aussi de Freud, hein, puisqu'on sait qu'elle maîtrise l'italien, elle maîtrise l'anglais, l'allemand, hein, notamment, et donc elle traduira Freud. Elle sera d'ailleurs, on le verra plus tard, elle s'intitulera aussi, s'instaurera un petit peu la représentante de Freud en France, au point qu'elle sera, elle aura des détracteurs, parce que elle voudra s'imposer comme telle, on dira d'elle, Freud m'a dit, entre guillemets, voilà. Et elle est traduite notamment Souvenirs d'enfance de Léonard de Vinci. Alors là, ça fera un grand scandale, hein, voilà. La traduction de l'ouvrage de Freud. Non. C'est qu'on est quand même au début du XXe siècle, hein, un siècle très pudique, très bourgeois, très pudibond. Alors ça, c'est vraiment révolutionnaire. Voilà, donc Gustave Le Bon, il a ses contacts, et il y aura beaucoup notamment de correspondances qui resteront avec ce médecin et sociologue. Elle lit en 1924, c'est là sa découverte, disons, littéraire de Freud, l'introduction à la psychanalyse de Freud, par Freud, hein. Et d'ailleurs, en veillant son époux, en veillant son père Roland, qui est sur son lit de mort. Donc elle passera ses nuits à lire l'ouvrage de Freud. Et elle aura quelques amants, je viens de l'évoquer, notamment, Freud, là c'était dans une traduction quand même, elle ne lisait pas dans le texte de Jean Kelievix, qui est connu, c'est un philosophe connu, contemporain. Donc... elle va écrire elle-même aussi Le bonheur d'être aimé, à la suite de sa relation avec Briand, qui va durer, je l'ai dit, à peu près 4 ans, quoi. Et puis ça sera une séparation très brutale, voilà. Mais pas violente, mais il ira voir une autre femme, et puis elle en prend acte, c'est tout. Et donc, elle va aussi se lier avec alors un autre psychiatre, un jeune psychiatre alsacien, René Laforgue, qui va lui, qui connaît Freud, qui est un élève de Freud, un disciple, et qui va la faire rencontrer Freud, puisqu'elle demande, elle voudrait, encore une fois, entrer en analyse auprès du père de la psychanalyse de Freud. Alors voici le texte, la lettre de Laforgue, qui donc la recommande à Freud. Il s'adresse à lui en ces termes. La princesse Georges de Grèce souffre d'une névrose obsessionnelle assez prononcée, ce qui certes n'a pas nui à son intelligence, mais a toutefois perturbé quelque peu l'équilibre général de sa psyché. Cette dame a l'intention d'aller vous voir à Vienne et me prie de vous demander si éventuellement vous entreprendriez sur elle un traitement psychanalytique. Alors Freud est d'abord réticent, et puis in fine, bon, il accède à sa requête et donc va la prendre en analyse. Et donc elle va écrire... ils vont se rencontrer en 1925, elle fera plusieurs séjours, ça va durer, donc 18 ans, hein, c'est très long, ces cures psychanalytiques, ça dure jusqu'au départ de Freud d'Autriche, de 1925 à 1938, elle fera des allées et venues avec, entre Paris et Vienne, voilà. Et elle écrit par exemple... je suis venu chercher chez lui. Alors là, c'est très cru, mais vous avez entendu, c'est, il n'y a pas de langage de tournure de style. Très direct. Je suis venu chercher chez lui le pénis et la normalité orgastique. Voilà, c'est très résumé. Et alors, elle va s'imposer, je veux dire, parallèlement, parce qu'elle va être une mécène, une pionnière. Elle va développer la psychanalyse en France. Elle va s'imposer donc comme la représentante du cher maître. Lui, il l'appelle chère princesse et elle, chère maître, au sein du milieu psychanalytique français. Et donc, elle va œuvrer, elle sera un peu une missionnaire, disons, et elle va porter sur les fonds baptismaux avec d'autres, hein, les structures de la psychanalyse en France. Alors, le 4 novembre 1926, avec 8, on va dire, confrères, parce qu'elle va s'installer aussi comme psychanalyste, elle aura un cabinet à Saint-Cloud, notamment, et à Paris, donc, où elle recevra des patients. Hein, voilà. Elle sera donc avec 8 autres psychanalystes, la fondatrice, cofondatrice, novembre 1926, de la Société Psychanalytique de Paris. Il existe déjà une Société Psychanalytique en Angleterre, hein, mais c'est nouveau en France. Et elle va fonder la Revue Française de Psychanalyse. Voilà. Revue Française de Psychanalyse, et elle va aussi participer financièrement, très riche, donc elle va être un élément très important dans le financement, hein, de cette revue. En 1935, elle rédige, elle continue d'écrire, une étude monumentale, enfin très importante, un pavé, sur Edgar Poe. Vous savez, c'est le romancier britannique contemporain, hein, du 19e siècle, fantastique, quoi, voilà. En 1936, elle inaugure l'Institut de la Société Psychanalytique. Alors, là aussi, elle a participé au financement. Et en 1936, elle va acheter les lettres de Freud à Fliès, F-L-I-E-2-S, William Fliès. Alors, il faudrait raconter l'histoire de Freud, hein, ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique. Donc, là aussi, c'est probablement une liaison homosexuelle entre Freud et son confrère, qui était un jeune médecin, Fliès. Et donc, elle achète les œuvres, les lettres, correspondance de Freud, qui sont vendues par la veuve de Fliès. Et donc, elle les achète et elle refusera de les rendre à Freud, non pas pour le faire chanter, là, mais parce qu'elle pense que Freud voudra les détruire. Et donc, elle va les faire publier, mais en les expurgeant. D'ailleurs, par la suite, dans les années 50, 60, les œuvres sont publiées intégralement, hein, voilà, sans censure, si on peut dire. Et puis, ce sera la période de la guerre de 39-45. Là aussi, dramatique, et elle va œuvrer. Elle va déployer toute sa générosité et même sa prodigalité pour sauver Freud et d'autres intellectuels juifs, pour les faire sortir de l'Autriche. Autriche qui est annexée, c'est l'Anschluss en 1938, par Hitler. Donc, en 1938, Freud, qui est déjà un vieillard, quoi, à peu près 70 ans, il ne veut pas quitter l'Autriche, hein. Mais lorsque Hitler annexe l'Autriche en mars 1938, eh bien les Juifs sont menacés et envoyés d'ores et déjà dans les camps. Et donc, eh bien, ça sera Marie qui va intervenir pour le sauver en liaison avec l'ambassadeur américain, William Bulit. Et donc, elle va faire en sorte de convaincre. Et puis aider Freud à sortir d'Autriche. Et donc, avec sa famille, avec beaucoup de membres de sa famille, elle va payer, parce qu'il faut payer aux nazis, là, une taxe pour libérer les juifs, entre guillemets, la taxe de sortie, 4 824 $ à l'époque. Par contre, elle va aider aussi 200 intellectuels juifs. Alors là, c'est un peu élitiste, mais bon, elle a une sensibilité pour les intellectuels. Bon, ils sont utiles aussi à la société, on va dire. Bon, mais elle les sauve, elle paye, hein, largement. Elle a les moyens, mais bon, faut le faire. Donc toutes ces taxes de départ. Apparemment, Freud remboursera quand même la taxe qu'elle lui a payée. Freud partira en Angleterre, à Londres, et va y mourir en 1939. Par contre, les trois sœurs de Freud, là aussi c'est un peu un mystère, qui sont trois vieilles dames d'environ 80 ans, hein, 78, 80, 85 ans, mourront dans les camps. elles sortiront pas de... Apparemment, elles auraient refusé, hein, à raison de leur âge, de quitter l'Autriche. Elles mourront en déportation. Et alors, Marie et la famille royale, puisque il faut pas l'oublier, elle fait toujours partie de la famille royale grecque, belle-fille du roi de Grèce, et puis, je pense, tante du futur roi de Grèce, enfin. Et d'ailleurs, à noter que le prince Philippe d'Édimbourg, hein, qui est l'époux, le prince consort anglais, l'époux de la reine Élisabeth II, n'est autre que le neveu de Georges de Danemark et de Grèce, l'époux de Marie. C'est purement et simplement son neveu, hein, voilà. Et donc, par la suite, la France est occupée, hein, dès mai 1940, et donc c'est l'exil. Marie et sa famille, et la famille royale, hein, de Grèce, partent d'abord en Crète, et puis en Égypte, à Alexandrie, et puis au Cap, en Afrique du Sud. Et après, ça sera une pause musicale que nous allons faire, une petite pause de la pure musique, hein, que j'ai trouvée là, sur les images, hein, de Marie Bonaparte, enfin incarnée par Catherine Deneuve. C'est un petit peu notre référence, le film de Benoît Jacquot avec Catherine Deneuve, une musique un petit peu à tonalité psychanalytique. Donc je vous laisse écouter, et nous nous retrouvons après pour l'épilogue et la conclusion.